Voilà, que Dieu soit béni. Nous allons lire dans Luc au chapitre 19. Luc au chapitre 19. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Nous lisons à côté le chapitre 18, à partir du verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. « Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Nous avons deux textes très voisins et dans ces deux textes, nous avons le même problème qui se pose, le problème de la conversion et la question des richesses. Et dans le premier texte, nous avons affaire à quelqu'un qui était très riche, chef des publicains. Les publicains, c'était les gens qui collectaient les taxes. Donc, aux portes de la ville ou dans les marchés, il collectait les taxes. Ça faisait partie des taxes principales de l'époque avec les taxes agricoles. C'était ça qui faisait rentrer de l'argent au à l'État. Et les gens qui étaient des publicains avaient pour habitude de surtaxer et en surtaxant, ils prenaient le surplus illégal, ils mettaient dans leur poche. Et donc, quand on disait de toi que tu étais un publicain ou un péager, en général, on considérait que tu étais un malhonnête parce que ces gens-là avaient l'habitude d'être malhonnêtes. C'est comme quand on dit politicien aujourd'hui. En général, un politicien aujourd'hui est malhonnête. Donc, politicien peut parfois faire objet d'injures, quoi. Donc, ça peut remplacer une injure. Et à l'époque, publicain péager, c'était comme une insulte. Parce qu'en général, ils étaient malhonnêtes. Mais Zachée s'était beaucoup enrichi. Lui, il était non seulement publicain, mais il était le chef des publicains. Donc, il devait avoir encore beaucoup plus d'argent que tous. Et on nous montre Zachée qui était dans la recherche de quelque chose de plus grand. Zachée, le fait qu'il cherchait Jésus montrait que sa richesse n'était pas suffisante pour lui donner du bonheur. Elle n'était pas suffisante. Et le monsieur aussi qui était riche, apparemment, honnêtement, n'était pas non plus satisfait de la vie. C'est pourquoi il voulait chercher autre chose. Et il croyait fermement que Jésus possédait la chose. Zachée aussi croyait que Jésus possédait la chose. Nous avons une première constatation, bien-aimés, c'est que les richesses de la terre ne donnent pas une pleine satisfaction. Parce que si les richesses de la terre donnaient une pleine satisfaction, que ce soit Zachée, que ce soit cet homme riche, il ne chercherait pas à rencontrer Jésus si ardemment. Vous vous rendez compte, Zachée est monté sur un arbre, lui qui était un notable. Il monte sur un arbre. Et lorsque Jésus lui dit que je demeure aujourd'hui chez toi, on dit qu'il s'est hâté, il a accéléré le pas pour recevoir Jésus. Donc il avait soif de recevoir Jésus. S'il avait soif de recevoir Jésus, c'est que il lui manquait quelque chose. Première constatation, malgré tout l'argent qu'on peut avoir, malgré toutes les richesses qu'on peut avoir, il nous manque la vie. C'est pourquoi les gens, avec l'argent qu'ils ont, ils sont dans la course après la vie. La vie, c'est quoi? C'est le bonheur, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'assurance, c'est ça la vie. Et ces gens-là, ils vont rechercher le bonheur dans les achats, dans la consommation facile parce qu'ils ont l'argent. Mais ils finissent toujours pas par trouver le bonheur et ils vont de plus en plus loin. C'est ainsi qu'il y en a qui commencent par chercher le bonheur dans l'argent lui-même, en avoir beaucoup. Et quand ils en ont beaucoup, ils ne savent plus quoi faire avec l'argent. Ils veulent faire, vous savez, il y a des gens qui sont tellement riches, il fête son anniversaire, c'est un grand chanteur qui vient chanter quoi, dans sa maison. Alors que les humains normaux, pour voir un tel chanteur, il faut que ce soit dans un concert de stade ou bien de grandes salles. Mais lui, il fête son anniversaire dans un bateau ou bien dans sa maison. C'est quelqu'un comme Johnny Hallyday, quelqu'un comme... c'est comme ce prince-là, koweïtien ou saoudien. Le jour de son anniversaire, c'est Michael Jackson carrément qui vient chanter. Vous imaginez combien il a dû payer. Donc, il ne sait plus quoi faire de l'argent. Et il a envie de la nouveauté. C'est la course vers la vie, vers l'assurance, vers une sorte de suffisance. Mais ça ne marche pas toujours. Ça ne marche toujours pas. Et ces gens-là continuent à courir. Et après, c'est la cocaïne. Après, c'est l'alcool. Après, c'est finalement, ils finissent par se suicider ou ils finissent par être pris dans le piège de la quête pour la vie. Et Zachée a rencontré la vie. La vie, c'était Jésus. Et dès que Zachée a vu Jésus, il a compris que ce qui lui manquait, Jésus pouvait lui donner. C'était la véritable vie, qui ne dépend pas des richesses de la terre. Donc, deux problèmes. Et un problème avec deux personnes, le même problème. Beaucoup d'argent, mais pas de bonheur. Beaucoup d'argent, mais pas de vie. Beaucoup d'argent, mais pas de goût de vivre. Et bien aimé, conseil gratuit, l'argent, comme on dit dans le monde, ne fait pas le bonheur. On peut avoir beaucoup d'argent et continuer toujours à se lamenter, continuer à souffrir. Vous savez, quand les gens qui souffrent dans d'autres pays pauvres voient comment les gens ici se lamentent, vous savez que la France, c'est le pays le plus pessimiste au monde. Or, c'est l'un des pays au monde, l'un des premiers pays où il y a un assistanat très fort, où les gens sont vraiment aidés par l'État. Mais c'est là où on trouve les gens les plus pessimistes au monde. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas l'espoir, il n'y a pas la vie, il n'y a pas le goût de la vie. La vie est un cercle ici en France. Tu travailles, tu fais les études pour trouver un bon travail, tu trouves le travail, tu veux une bonne entreprise, tu trouves la bonne entreprise. Il ne faut pas que ça s'arrête. Il faut que ce soit un CDI qui ne s'arrête pas. Et puis, ensuite, il faut une bonne retraite. Mais quand tu as la retraite, tu n'as plus les moyens de t'amuser comme avant. Et finalement, tu deviens triste. Tu sombres dans ceci et dans l'alcool, dans autre chose. Et puis, vient la maladie, tu es reclus dans une maison de retraite. Est-ce que c'est ça la vie? Donc, les gens s'ennuient. C'est pourquoi ils cherchent, certains même cherchent des sensations fortes. Ils sautent avec un élastique attaché au pied du haut d'un pont. Parce qu'ils sont embêtés par la vie. Ils sont ennuyés par la vie. Il y a la nourriture, il y a les vêtements. Et après, il manque quelque chose. Il manque le goût de vivre. Et ce goût de vivre ne dépend pas de l'argent. La preuve, nos deux messieurs avaient beaucoup d'argent, mais ils voulaient rencontrer Jésus parce qu'il leur manquait quelque chose. Il leur manquait l'assurance de l'éternité, l'assurance de la vie éternelle, l'assurance que Dieu est avec eux. Ça leur manquait parce qu'ils savaient que, ils sentaient en eux et ils le savaient que sans Dieu, l'homme n'était rien du tout. C'est alors que Zachée se dit, je dois voir Jésus. Et Jésus va chez lui. Qu'est-ce que Zachée dit au verset 8? Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Donc, qu'est-ce que Zachée proposait? Parce qu'il faut savoir que Zachée était riche et par ses revenus normaux, mais il était aussi riche par ses revenus anormaux, c'est-à-dire liés aux malversations. Alors, qu'est-ce qu'il décide? Il décide de réparer selon la loi. Selon la loi, quand tu as pris la chose de quelqu'un, tu restitues fois 4. Dans l'Ancien Testament, c'était écrit ainsi. Et maintenant, après avoir réparé tout ça, il dit, je vais réparer tout ce que j'ai fait comme mal, comme vol. Cependant, il va me rester encore de l'argent. Mais je prends la moitié, je donne aux pauvres. Qu'est-ce que Jésus dit? Nous allons lire au verset 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Nous voyons comment nous amenons les gens à la conversion. Nous leur disons, fais la prière, Seigneur Jésus, je te donne toute ma vie. Bon, on dit à la personne, ça y est, t'es converti, tu es de Dieu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai théoriquement. Parce que nous ne pouvons pas savoir si vraiment dans le cœur de la personne, il a accepté de tout donner. Je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas qu'on ne devrait pas faire comme ça. Mais en tant qu'humains, nous sommes limités. Nous ne pouvons pas savoir, est-ce que quand il a dit « je donne toute ma vie », il a tout donné. Voilà. Parce que la preuve, c'est que par la suite, nous réalisons que beaucoup n'ont vraiment pas donné toute leur vie au Seigneur. Mais là, bien-aimé, Jésus qui est Dieu, lui sait quand tu dis quelque chose si c'est vrai ou faux. Donc quand Zachée dit « je donne mes biens aux pauvres et je vais réparer tout ce que j'ai pris comme argent d'autrui », Jésus dit « tu es sauvé maintenant ». Qu'est-ce que ça nous apprend ce texte? Quand on compare le même texte au texte qui le précède dans Luc 18, qu'est-ce qu'on voit? On dit au jeune homme riche qui veut, son problème c'est quoi? Nous allons revenir sur Zachée. Le riche, qu'est-ce qu'on lui dit? C'est lui qui commence. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? On a dit qu'ils avaient les deux le même problème. Le problème de la vie éternelle, de l'assurance en Dieu. Ils avaient ce problème-là. Et le riche, lui, il a été clair. Zachée, il était embêté, mais c'est Dieu qui a vu dans son cœur. Et le riche, lui, il a été clair. Le riche honnête, parce qu'il dit que lui, il a toujours été honnête, il a accompli la parole de Dieu. Mais il ne sentait pas avoir la vie éternelle. Il sentait un vide, il sentait un problème en lui. Et ce riche-là dit à Jésus, mais qu'est-ce que je dois faire? Il pensait peut-être qu'on lui dirait de multiplier fois deux le nombre de ses aumônes, de ses dîmes ou autre. Il pensait peut-être qu'on lui citerait une loi qu'il avait oubliée. Jésus lui dit, mais qu'est-ce qui est écrit? Toi-même réponds à la question. Il dit, mais il faut accomplir. Jésus lui dit, tu connais le commandement. Tu ne tueras point, ainsi de suite. Tu ne feras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et le monsieur dit, mais il n'y a pas de problème de ce côté-là. J'ai déjà observé cela. Quelle leçon nous apprenons? C'est que malgré le fait que cet homme-là avait observé tout ça, il lui manquait quand même l'assurance du salut. Ça confirme qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Puisque cet homme dit, Jésus lui dit, mais tu connais les commandements. Jésus lui cite les commandements, lui il dit, pas de problème. J'ai accompli ça. Mais on a envie de lui poser une autre question. Mais qu'est-ce que tu viens chercher puisque tu as déjà accompli ça? Mais lui, il venait chercher la vie. Malgré ça, malgré le fait qu'il honorait son père et sa mère, malgré le fait qu'il payait l'argent au temple, malgré le fait qu'il ne volait personne, il savait en lui-même qu'il n'avait pas la vie éternelle. Parce qu'il est écrit dans la parole, tous ont péché. Même si en apparence, quelqu'un peut paraître à 100% honnête, la Bible nous dit qu'il a le péché en lui. Et il savait que c'était bloqué. L'éternité était bloquée pour lui. C'est une façon de dire à Jésus, mais j'ai fait tout ça. Mais malgré ça, je n'ai pas toujours la paix et l'assurance du salut. Jésus lui dit, mais donc il te reste une chose. Vends tous tes biens et suis-moi. Ce monsieur disait que lui, il accomplissait la parole de Dieu, la loi. Mais il y a un des versets de la loi qui dit ceci, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. Jésus l'a piégé. Jésus a dit, mais tu m'appelles bon. Il n'y a que Dieu seul qui est bon. Donc si tu m'appelles bon, donc tu m'as mis au même niveau que Dieu. Dans ce cas, puisque je suis Dieu pour toi, vends tous tes biens et suis-moi. Puisque tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc tout doit être pour le Seigneur dans ta vie. Donc dans ce cas, applique ce commandement-là. Mais il est écrit que le monsieur s'en est retourné tout triste. Et Jésus fait un commentaire, il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ça veut dire que cet homme-là, au moment où nous, nous lisons, au moment où cette scène-là avait eu lieu, cet homme n'était pas entré dans le royaume de Dieu. Pourtant, Zachée était entré dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire banalement? C'est que l'argent a fait entrer l'autre, et le premier, et a empêché le deuxième d'entrer dans le royaume de Dieu. Il y a l'un qui a donné ses biens, il est entré, et l'autre a refusé, ça lui est resté fermé. Est-ce que ça veut dire que le royaume de Dieu s'achète par l'argent? Non. Mais il y a une incompatibilité entre le fait de posséder des richesses et qu'elles soient à nous, et le fait de se convertir à Jésus. Il y a une incompatibilité. Ces deux textes nous le montrent. Tous ceux qui s'attachent à des richesses ne sont pas sauvés. C'est la vérité, bien-aimé. Ça peut paraître très dur, mais c'est la vérité. Nous sommes en face de la vérité. Il y a un qui est parti. Le Seigneur a dit, il est difficile aux riches d'entrer dans le ciel. Donc, lui, n'était pas entré là, en ce moment. Mais il y a un qui a dit, Seigneur, oh, si j'ai volé, je répare. Je rends l'argent que j'ai volé. Et en plus, la moitié des biens, de mes biens, je donne aux pauvres. Et là, il est écrit que celui-là, le salut est entré dans sa maison. Zachée a été sauvé parce que Zachée a été libéré de Mammon, le dieu de l'argent. Nous voyons, bien-aimés, un lien très étroit entre le salut et l'argent. Entre le salut et les richesses, il y a un lien très étroit. Celui qui vient à Jésus est libéré automatiquement de la logique des biens matériels de la terre. Il est libéré du système des biens matériels de la terre. Ce n'est plus quelqu'un qui dépend du système de la terre, c'est quelqu'un qui dépend du système du ciel. C'est une réalité, bien-aimée. Aujourd'hui, beaucoup dans le milieu chrétien se plaignent. Ah, mais nous manquons, nous les chrétiens. Nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas ceci. Mais est-ce qu'on est converti? Est-ce qu'on est libéré du système financier de la terre? C'est lié les deux, bien-aimés. On en a la preuve. Et c'est des textes voisins. C'est pas pour rien que c'est des textes voisins. C'est lié, c'est lié. Quelqu'un qui s'attache aux biens matériels de la terre n'est pas sauvé. C'est lié. Et Zachée a démontré qu'il choisissait Jésus. Parce qu'il n'y a aucune phrase, on ne voit pas la phrase là que Zachée sort, « Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur ». Il n'a pas dit ça. Il s'est mis devant Jésus, il a dit « Seigneur, je fais tout ça pour toi. Quoi. Je répare. » Côté financier, tout ce que j'ai volé. Et deuxièmement, ce qui est à moi-même, je donne. Quoi. Voilà. Mais tout ça pour toi. Jésus, vous savez bien aimé, le salut n'est pas à moitié. Le salut doit être total. Et le salut passe par le fait de voir Jésus comme le plus beau des fils de tous les hommes, comme la plus belle réalisation. La plus belle, le plus grand objectif. Tant que tu n'as pas perçu, tant que tu cherches tout simplement à aller au ciel, tant que tu cherches tout simplement à être correct, ce n'est pas ça le salut. Le salut, c'est être comme Zachée, se tenir devant Jésus, dire, mais pour toi, devant toi, l'argent que j'ai n'est rien du tout. Je donne aux pauvres. Devant toi, pour gagner Christ, l'apôtre Paul explique ça dans Philippiens 3. Il dit, j'ai considéré tout perte pour gagner Christ. Il y a une incompatibilité entre le fait de gagner Christ et de s'attacher aux choses de la terre. C'est incompatible. C'est incompatible. Et notre salut est démontré à partir de cela. Ce n'est pas une question, le salut, ce n'est pas une question de beaucoup de théories. C'est concret. Zachée a dit, je donne aux pauvres. Jésus a dit, tu es sauvé. Mais donc, il faut savoir que Zachée l'a fait de tout son cœur. Il n'a pas fait ça pour... quand on dit la moitié des biens, C'était pas n'importe qui, Zachée. Hein. C'était le chef des publicains. Je crois qu'il devait être côté pouvoir, au même rang que le gouverneur de la ville. Au même rang, parce que c'est lui, Zachée, qui prenait l'argent qu'il donnait aux Romains. Donc je crois que Zachée pouvait même influencer la nomination du gouverneur de la ville, parce que c'est lui qui donnait l'argent aux Romains. Donc, et les Romains, c'est eux qui donnaient le gouverneur, qui mettaient le gouverneur, qui nommaient le gouverneur. Donc Zachée pouvait dire aux Romains, écoute, le gouverneur, il m'embête, changez de gouverneur. Parce qu'il avait le pouvoir, l'argent lui donnait le pouvoir. Mais il en suit en lui que j'ai échoué. L'argent ne m'a pas donné ce que le bonheur que je veux. Je veux le vrai bonheur. Et cet argent me gêne. Je m'en débarrasse parce que j'ai trouvé le vrai bonheur, c'est Jésus-Christ. Je veux m'attacher à Jésus. C'est une incompatibilité de suivre Jésus et de s'attacher à l'argent. C'est incompatible. C'est incompatible. Nous ne voulons accuser personne. Nous disons la chose clairement. Est-ce que tu es vraiment sauvé? Ben, ça va se démontrer par ton détachement par rapport aux choses de la terre. Voilà. Ça va se montrer. On n'a pas besoin de faire 5 ans de théologie. On va voir que toi, tu dépends du système du ciel. Voilà. On va voir que quand toi, tu travailles, tu n'as pas peur de la vérité, même si la vérité peut conduire à ton licenciement, parce que tu ne dépends pas de la terre pour tes revenus. On va voir que tu ne vas pas faire des coups bas aux autres pour apprendre leur poste à cause de l'argent. On va voir que lorsque tu prêtes à quelqu'un, tu ne l'embêtes pas pour rembourser. Ça va se voir. Lorsqu'on te prend quelque chose, tu ne cherches pas à récupérer ça. Parce que tu es libéré. Bien-aimé, quel commentaire Jésus fait après la déception concernant le jeune homme riche? Il dit, c'est difficile aux riches, à ceux qui ont des richesses, d'entrer dans le paradis. Parce qu'ils s'accrochent à leur richesse. Ils croient que leur richesse est une force. Puisqu'avec les richesses, on a ce que... Puisque l'homme, étant un organisme vivant, il consomme. Il a besoin d'un environnement qui puisse faire qu'il continue à vivre. Cet environnement, c'est la maison, c'est les vêtements, c'est la nourriture, c'est l'essence. Tout ça contribue à ce qu'ils vivent longtemps. Or, il y a un instinct de vie qui est en nous. On veut vivre. Et maintenant, quand on a des richesses, on pense que ces richesses-là vont assurer ce qui permet à l'être vivant de vivre. Or, combien d'accidents ne voyons-nous pas? D'avions, de trains, de voitures, des gens qui ne s'y attendaient pas et qui sont morts. Des enlèvements d'enfants et qu'on tue après. Ils ne s'y attendaient pas, ils étaient remplis de vie. C'est pour nous dire que la richesse ne garantit pas la vie. Mais l'homme croit dans son égoïsme et dans sa folie, il croit que les richesses, il croit que ce qu'il a lui donne une certaine certitude et assurance. C'est très très faux. Vous savez, le Seigneur a dit, mais regardez les oiseaux. Dans Matthieu 6, que nous allons lire pour clôturer notre prédication, il dit, regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais est-ce qu'on a vu des oiseaux mourir de faim? Non! Il dit, mais si Dieu peut s'occuper des oiseaux, et vous, ses enfants, c'est clair, bien-aimés, notre conversion, notre identité chrétienne sera visible en fonction de notre attitude vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis des richesses. On saura qui est qui à partir de ce moment-là. Vous savez, pour l'homme riche, c'était dur. Il se dit, oh, mais moi j'ai gagné mes biens honnêtement. Je n'ai pas volé. Vous savez, Dieu est sage. Il savait que nous, on pouvait être déstabilisés par l'exemple du jeune homme riche. Il prend l'exemple de Zachée, qui, lui, voilà, accepte de donner ses biens pour nous dire, mais tiens, vous voyez, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Celui qui pensait être vraiment de Dieu, lui n'a pas voulu, donc il n'était pas converti, non sauvé. Et celui qu'on pensait être mauvais, mais lui, il a reconnu qu'il avait échoué, qu'il lui manquait la vraie vie. Et la vraie vie se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je préfère laisser tous ces biens-là pour saisir Christ, comme notre frère Paul le dit. Et le jeune homme riche, nous tous, on se met à sa place, on dit, mais ce n'est quand même pas facile. Tu as fait 15 à 20 ans de travail difficile dans la ferme, dans une société, tu as amassé des richesses. Et un bon jour, on te dit, ben vends tout ça et suis-moi. D'ailleurs, c'est ce qui nous fait, c'est ce qui fait passer les gens comme des sectes pour des sectes. Un bonjour, vends tout tes biens et suis-moi. Nous tous, on se dit, oh là là, ça a dû être dur pour lui. Mais qui croit que Jésus-Christ est bon? Si nous tous qui sommes là, nous croyons que Jésus est bon, comment un homme bon peut donner un commandement si dur? La réponse se trouve dans 1 Jean 5:3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Jésus étant bon, il ne peut pas nous imposer un commandement pénible. Mais chacun nous dit, mais voyons quand même, pasteur, vendre tous ses biens, c'est quand même pénible. On est quand même des humains. Mais oui, ça a un effet de douleur, mais ce n'est pas un commandement pénible. Frère, si on te dit de creuser un trou de 3 mètres, c'est pénible ou pas? Mais c'est pénible! Mais si on dit qu'au bout de 3 mètres, il y a un diamant là-bas, c'est pénible ou pas? Ce n'est plus pénible. Ce n'est plus pénible. Creuser 3 mètres, c'est pénible. Mais s'il y a du diamant au bout, oh. Donc on met du café à côté, allez, on y va, quelques gâteaux à côté, de temps à autre, allez, Germaine, amène-moi de l'eau. On crée. Puisqu'on sait qu'il y a le diamant, on peut même une radio cassette à côté, allez, la musique. Parce qu'on sait qu'il y a un diamant au bout. Jésus sait que, là c'est la deuxième phase, nous passons à la deuxième phase. Jésus sait que c'est un beau commandement. C'est pourquoi il le dit tranquillement, bien aimé. Est-ce que vous imaginez dire à quelqu'un qui a fait 20 ans, 30 ans dans son entreprise, il a gagné des richesses, vous lui dites de tout vendre et de suivre le Seigneur. Mais pourquoi Jésus dit ça avec une telle tranquillité? Parce qu'il sait que c'est un beau commandement. Il sait que quand le monsieur va tout vendre, la réponse se trouve dans Luc 18 même. Il dit, il aura même plus que ça. La réponse se trouve chez Job là-bas. Donc Luc 18, Jésus dit à Pierre, puisque Pierre dit, mais Pierre en comparaison à cet homme-là, Pierre dit à Luc 18, 28, il dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Nous, il dit, on connaît Pierre. Hein? Il dit, mais Seigneur, nous, on a accepté de se sacrifier. Ce monsieur-là, il ne t'aime pas suffisamment. Nous, on accepte de se sacrifier. Jésus dit, oh, Pierre, ce n'est même pas un sacrifice. Lisons la suite. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, ce n'est pas une personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Jésus dit, oh, ce n'est même pas un sacrifice, puisque vous allez recevoir beaucoup plus. c'est que les autres n'ont pas vu qu'ils vont recevoir beaucoup plus. Ils n'ont pas cru en moi. Ils n'ont pas su que j'étais bon. C'est pourquoi Jésus a dit à ce monsieur-là, tu m'appelles bon, est-ce que tu es sûr que je suis vraiment bon? Alors si je suis bon, vends tous tes biens et suis-moi. Si vraiment tu crois que je suis bon, ce commandement-là va ne plus être pénible pour toi. Parce que tu sais à qui tu as affaire. On se souvient de la femme, non? À qui Jésus a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. La femme a dit, laisse tomber, toi tu es très bon, même les miettes vont faire guérir ma fille. Jésus a dit, femme, ta foi est grande. À l'instant, sa fille était guérie. Parce que cette femme-là avait compris que même les miettes réservées, de la nourriture réservée à Israël, même ces miettes-là, quand ça va atteindre les païens, elle qui était une gentille, une païenne, ben, ça va quand même faire de l'effet parce que Dieu est infiniment puissant. Jésus cherche des gens qui ont compris comme cette femme-là. Vous savez, quand Jésus vante quelqu'un, c'est rare que Jésus vante quelqu'un. C'est rare, mais c'est normal parce qu'il est le plus grand, le plus beau de tous les fils de l'homme. C'est rare qu'il vante quelqu'un. Mais il a vanté deux personnes seulement, trois personnes peut-être seulement. Et ce n'est que deux femmes et un homme. Il a vanté seulement là. Le centenier romain qui lui avait dit, ben, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Parce que moi je commande aux soldats, toi tu peux commander à tout, aux molécules, aux maladies, aux microbes, tu peux commander à tout. Jésus a dit, oh, même en Israël je n'ai pas vu une telle foi. Et il y a cette femme là qui est venue voir Jésus pour qu'il guérisse sa fille. Jésus dit, oh, mais moi, je ne te connais pas. Hein. Moi, je suis envoyé pour Israël. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. La femme a dit, d'accord, je suis une chienne, mais je veux juste des miettes qui tombent de la table. Parce que les vrais chiens, parce qu'on ne parle pas des chiens d'aujourd'hui qui sont des jouets dans les maisons, mais les vrais chiens d'autrefois, ils mangeaient les miettes. Mais ça ne les empêchait pas de courir. Hein. Donc nous, on mangeait d'abord, et puis les os qui restaient, et puis les quelques parties de riz qui restaient, on faisait une gamelle, allez, c'est le chien qui s'en occupait. Mais ça n'empêchait pas au chien de mordre hein, et de courir, et d'être en bonne santé. Donc la femme dit, Seigneur, même les miettes vont faire que moi j'aie la vie, et ma fille soit guérie. Jésus a dit, quelle foi! Et Jésus aujourd'hui nous parle, croyez-vous qu'il est mauvais pour nous dire, vends tous tes biens et suis-moi. Pourquoi nous avons cru en Jésus? Parce qu'il est bon. Et bien, comment on peut penser que ce commandement soit difficile? La chose en elle-même est difficile. Faire un trou de 3 mètres, c'est difficile. Mais quand on m'assure qu'il y a un diamant de 4 millions d'euros au bout, c'est moi-même qui vais demander rapidement à faire ce trou-là. Et c'est pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu savais qui est en train de te demander de l'eau. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit la même chose. Si tu savais qui te donne ce commandement-là, sois libéré des richesses. Viens t'attacher à moi. Suis-moi. Si tu savais, c'est toi qui te précipiterais. Dans nos vies de tous les jours, on est accroché. On est accroché. On va parfois faire des kilomètres. On va faire parfois des calculs, des centimes. On ne veut pas perdre 2 euros. On ne veut pas perdre 5 euros. Comme si l'argent venez de nos poches, Jésus dit, mais comme l'argent vient de vos poches, allez, débrouillez-vous. C'est pourquoi règne la pauvreté dans les milieux chrétiens. Et les menteurs, les faux pasteurs qui viennent dire, donnez, vous serez millionnaires. On prend l'argent, on leur donne. Et la pauvreté ne fait que continuer et ils s'enrichissent. De l'argent de calcul, Jésus dit, détache-toi des richesses. Si quelqu'un t'en prend, prends ton pull, tu lui donnes même le manteau. Voilà. Que les richesses n'aient aucune importance pour toi. Maintenant, on dira, mais ce n'est pas facile. c'est facile quand on sait que quand on s'en débarrasse, on reçoit plusieurs encore, plus qu'avant. Ce n'était pas facile pour Job. Mais dans le chapitre 42, lui-même, il bénit le Seigneur. Il dit, oh Seigneur, je ne savais pas que tu étais si magnifique. Finalement, je me rends compte que tu m'as béni par les malheurs qui me sont arrivés. Joseph, j'étais dans le puits. À cause du temps, bien-aimé, nous passons à la troisième phase. Vous savez, un des problèmes que nous avons, c'est que nous voulons que Dieu se manifeste comme le monde se manifeste. Or, dans Jean 14, 27, Dieu dit, Jésus dit, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Comme c'est écrit là, tous ceux qui abandonnent vont recevoir plus. Alors nous, on s'attend que quand tu donnes 10, tu reçois 100. On veut encore de l'argent. L'argent du monde, quoi, fiduciaire. Donc on veut encore ça. Et Dieu, lui, il nous donne de l'argent du ciel. C'est un de nos problèmes. Nous voulons donner l'argent humain pour recevoir de l'argent humain. Mais bien aimé, il n'y a pas que l'argent qui est une richesse sur la terre. Il y a des endroits, quand toi tu vas déposer l'argent à la poste, est-ce qu'on te donne l'argent en retour? Non, on te donne un papier sur lequel est écrit « Monsieur a déposé 1000 euros ». Et ce papier-là constitue quoi? Les 1000 euros. Mais alors que tu n'as pas 1000 euros. Donc ça veut dire qu'il y a de la richesse qui n'est pas toujours de la même espèce que son origine. Toi, tu as donné l'argent en espèces de 10 euros, mais on te donne un papier. Mais tu considères ce papier-là valant 1000 euros toujours. Et dans le système de bancaire, ce papier-là a cette importance-là. Mais Dieu nous dit, vous me donnez 10, vous me donnez tout, moi je vous donne encore plus, mais en valeur céleste. Et ces valeurs célestes vont se manifester pour s'occuper de vous mieux que si vous n'aviez que l'argent que vous aviez autrefois. Mieux! Mais ça ne va pas forcément se manifester par le fait que vous avez de l'argent. Nous, on veut, comme les faux pasteurs le promettent, on veut les comptes bancaires remplis. Mais Dieu dit, mais ce n'est pas de cet argent dont je parle. Moi, je parle de l'argent du ciel, de la puissance d'en haut qui va faire exister les choses qui n'existent pas. Nous devons changer de conception. Dieu va te surprendre. Parce que Dieu, c'est quelqu'un qui est dans l'abondance. Il n'y a qu'à voir sa création. Il y a une, vous savez qu'aujourd'hui, les gens se rendent compte qu'ils ne connaissaient pas les poissons, ils ne connaissaient pas les fonds marins. Aujourd'hui, tous ces documentaires qu'on a vus autrefois, aujourd'hui, les scientifiques d'aujourd'hui disent, mais c'est zéro, dont nous ne connaissons que 10% des animaux qui sont dans la mer. On ne connaissait que 10%. Dieu qui est si abondant dans les animaux, dans les plantes, dans l'intelligence humaine. Il est abondant, il est infini. Et ce Dieu-là va être un Dieu de médiocrité, dans la richesse, c'est faux. Il sera toujours surabondant. Regardez Salomon. L'abondance. Regardez Joseph. Regardez Daniel. L'abondance. Mais d'abord, ces gens-là ont eu à tout donner à Dieu. Daniel a dit, bon, on donne notre jeunesse, on donne nos richesses, on est choisi parmi les meilleurs et on nous sert les mêmes plats que le roi, mais nous refusons, nous donnons ça à Dieu. Nous, on s'occupe de plaire à Dieu. Mais Daniel a été nommé ensuite dirigeant de Babylone, de loin plus qu'il pouvait penser. C'est ça les richesses du ciel. Ce n'est pas un donnant-donnant, ce n'est pas... Quand Daniel a donné en sacrifice la nourriture, il n'a pas reçu la nourriture en échange. Il a reçu la nomination comme un des gestionnaires de Babylone. Dieu nous donne au centuple, mais en monnaie céleste. ces monnaies célestes, cette monnaie céleste se manifeste par une protection dans ta vie. Ça se manifeste par le fait que tes besoins seront remplis, seront assouvis, seront exaucés. Ça se manifeste. Tu n'es pas obligé d'avoir les comptes bancaires remplis. Tu vas vivre chaque jour comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais tu n'en as pas. Mais c'est parce que tu as des richesses au ciel. C'est cet échange-là que nous devons accepter. Quand il dit « Laisse tout, suis-moi », il va te donner des choses dans le ciel. Mais pourquoi la galère au milieu de nous? Parce que les gens n'ont pas tout laissé. Ils sont dans les calculs. Ils n'écoutent pas le Saint-Esprit tel qu'il les amène à vouloir vivre. Ils veulent à tout prix un CDI. Ils veulent à tout prix un travail. Mais Dieu, quand il voit ça, il dit, oh, le monsieur n'a pas encore compris. C'est ça qu'il se dit, oh, mais pourquoi mon fils, ma fille est embêté comme ça pour une question de CDI, une question de... Il n'a pas compris que c'est moi qui s'occupe de, qui m'occupe de lui, d'elle. C'est ça le problème de Dieu. Conséquence, la sécheresse dans les milieux chrétiens. Parce qu'on veut vivre comme les gens du monde et on veut que Dieu s'adapte à ce système-là. Dieu dit non, moi j'ai mon système qui est plus efficace, plus grand que le système de ce monde. Bien aimé, ce n'est pas à dire qu'on ne travaille pas. D'ailleurs, il est écrit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais quand on a fait ce qu'il faut, on laisse tout entre les mains de Dieu. On dit de toute façon, je le faisais pour obéir. Maintenant que j'ai fait ma part, je laisse à Dieu faire sa part. Dans tous les cas, Dieu s'occupe de moi. Voilà. Et quand Dieu entend cela, il se dit bon. Maintenant, cet homme-là, cette femme-là, va voir qui je suis, le Dieu de l'abondance. Deux passages à lire et nous clôturons. Psaume 23. Psaume 23. Il est écrit ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais des recherches ont montré que, à la place de je ne manquerai de rien, on peut dire aussi je ne manque de rien. Donc c'est au présent, ce n'est pas quelque chose à venir. C'est dès maintenant, puisque l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il faut seulement ouvrir les yeux. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Bien-aimé, ma coupe déborde. Dieu, c'est le Dieu de l'abondance. Tu vas te retrouver dans une abondance. Tu te dis, mais d'où ça vient tout ça? Quand Jésus, les gens étaient très affamés. Jésus a dit, amenez-moi les 5 pains, 2 poissons, multiplication. Il nous a dit qu'il y a eu des restes qui ont fait 12 paniers. Abondance. Abondance. Avec Dieu. Mais pourquoi les chrétiens ne vivent pas ça aujourd'hui? Parce qu'ils n'ont pas compris Dieu. Ils n'ont pas compris à qui ils ont affaire. Ils sont là à vivre comme les gens du monde, à s'accrocher aux choses, à l'argent, aux richesses de la terre. Ils ne veulent pas dire à Dieu, c'est à toi maintenant. C'est eux-mêmes qui gèrent, comme si c'était à eux. Eh bien, Dieu dit, bon, d'accord, continue. Et les portes du ciel sont fermées. Aujourd'hui, bien-aimé, entre dans la relation avec Dieu. Fais comme Zachée. Zachée a compris que ce qui constituait sa force avant, en réalité, c'était son échec. Il s'est vite débarrassé de ça. Il s'est dit, maintenant, je vais entrer dans le système monétaire céleste. Il a compris. Beaucoup sont dans la logique. Bon, je viens au Seigneur, il va bénir mon entreprise, il va me donner beaucoup d'argent. Oh non, tu viens au Seigneur pour tout donner. Tu ne viens pas pour qu'il te donne, tu viens pour tout donner. Maintenant, lui, il te dit, ce que tu fais là, tu ne vas pas le regretter. Parce que ce que moi, je vais faire, ça va t'étonner. Ça va t'étonner. Parce que je suis le Dieu de l'abondance. Comme les scientifiques d'aujourd'hui sont étonnés par le nombre d'animaux dans les fonds marins, eh bien, les étonnements ne sont pas encore finis. Avec Dieu, tu vas être étonné. Et David dit, ma coupe déborde. Il dit que même mes adversaires ne comprennent pas ce qui se passe. Mais pourtant, avant tout ce moment-là, David a eu à payer le prix. Il a eu à souffrir pour Dieu. Et en souffrant pour Dieu, il donnait tout. Mais quand Dieu a commencé à faire le retour de l'ascenseur, David a dit, ma coupe déborde. Mais aujourd'hui, les coupes déjà ne débordent pas. Donc, comme on dit, leurs verres sont à moitié vides. Eux, ils disent que c'est à moitié plein. Voilà. Mais il n'y a rien du tout. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je serai toujours heureux. Et je préfère la maison de Dieu. C'est un roi qui parle là. David était roi. Voilà. C'est un costaud qui parle là. C'est lui qui a frappé Goliath. Mais il a su que tout ça, c'est zéro. Ce qui est glorieux, c'est d'habiter avec Dieu. Parce qu'il s'occupe de toi en tout. Il s'occupe de toi en tout. J'aime beaucoup Élisée. Élisée a fait des choses extraordinaires avec Dieu. Deux Rois chapitre 4. Il faut qu'on lise ça. Deux Rois chapitre 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi. » « Qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. » Non. Élisée, conscient de l'abondance de Dieu, il dit, « Ne demande pas un petit nombre. » Aujourd'hui, les gens sont tellement... Ils ont tellement loupé la foi... Ils sont dans les économies mesquines, des petites économies de rien du tout. Il y a des gens qui pensent que quand il a deux maisons, il a tout quoi. Mais Michael Jackson avait quoi? Avait tout un jardin, tout un parc. Il a fini sa vie endetté. C'est rien tout ça. Ce qui est grand, c'est avoir le Créateur avec toi. Ça veut dire, comme Paul nous dit dans 2 Corinthiens 6, il dit, nous n'avons rien du tout, mais nous avons tout. Pourquoi nous avons tout? Parce que celui qui a fait les cieux et la terre est notre Dieu. Voilà, donc s'il est notre papa, donc tout est à nous aussi. Et verset 4, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et lui, il s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Amen. Cette femme-là était la femme d'un prophète qui a servi Dieu honnêtement. Maintenant, le prophète est mort. Il va voir son maître, Élisée. Il dit, mais Élisée, ton serviteur, l'autre prophète, il est mort. Mais il a servi votre Dieu correctement. Voilà que moi, maintenant, je risque d'être vendu, moi et mes enfants, parce que nous avons des dettes. Et le créancier est en train de nous embêter. Élisée, conscient que Dieu est abondant, conscient que cet homme-là avait servi Dieu honnêtement, conscient de tous les passages bibliques, je n'ai jamais vu un juste mendiant son pain, ni sa progéniture, sa postérité, dans le désert, dans la disette. Élisée a dit, bon, va chercher, qu'est-ce que tu as? Mais je n'ai qu'un peu d'huile dans un petit vase. Eh bien, va demander les vases partout. Et il faut que ce soit beaucoup. Et cette femme obéit. Elle dit, maintenant tu vas prendre l'huile qui est dans le petit vase, tu vas verser dans ces autres-là. Et quand c'est plein, tu viendras me voir. Eh bien, cette femme-là a versé l'huile qui ne s'arrêtait pas. Hein, d'un petit vase dans les grands. Ça ne s'arrêtait pas. À un moment, elle dit à son fils, apporte un autre vase. Celui-ci est rempli, mais il n'y a plus. Tout est rempli. Bien-aimé, elle a tout vendu. Elle a payé les dettes. Vous voyez le système de Dieu? Ce n'est pas un système où tu as un compte bancaire rempli. Ça peut se faire. Chacun a son appel. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que tu as un compte céleste rempli. Donc au moment où toi tu as besoin, le compte céleste est débité pour toi. Ce n'est pas un compte que tu as tout le temps dans ta possession, dans tes poches ou dans ton compte bancaire. C'est quelque chose qui est au ciel. Quand toi tu as besoin, ça sort. Et souvent on n'a pas besoin. C'est pourquoi on galère, c'est pourquoi on souffre. On n'a pas besoin et on veut faire des choses dans les bêtises. Vous savez, les gens disent, mais pourtant on veut faire les choses pour Dieu. Mais oui, mais peut-être que vous n'avez pas bien regardé, vous n'en avez pas vraiment besoin. Et je vais vous donner un exemple. Les enfants d'Israël, ils ont adoré Dieu. Ils ont adoré le faux Dieu. Avec quoi? Avec les bijoux qu'ils avaient. Dieu a permis que les Égyptiens leur donnent de l'or. C'est Dieu qui avait fait qu'ils sortent de l'Égypte riches et que les Égyptiens leur donnent de l'or, l'argent, ainsi de suite. Et arrivés dans le désert, ils ont pris même le cadeau de Dieu, le don de Dieu. Ils en ont fait, ils ont fondu ça pour faire le veau d'or pour l'adorer. C'est pour nous dire que nos richesses que nous cherchons, parfois, peuvent servir même à nous éloigner de Dieu. C'est pourquoi Dieu est prudent. Entre nous et Dieu, celui qui a peur de l'autre, c'est Dieu qui a peur de nous. Il sait que nous pouvons dévier avec les richesses qu'il donne. C'est pourquoi il veille sur nous. Il nous éduque de sorte que quand ça va venir, nous gérerons bien. Il veut nous transformer d'abord, nous appeler à être libérés de ça. Il veut pas qu'on fasse comme ça nous est prêché à gauche, à droite, qu'on devienne des gens aimant l'argent et cherchant ce que Dieu nous donne cet argent-là pour commencer à devenir orgueilleux et nous éloigner ensuite de lui. Non, il veut nous sauver par-dessus tout. Alors il veut nous donner au bon moment. Il nous forme pour cela. Parfois ça fait prendre du temps, c'est parce qu'il nous forme. Il nous exerce à être libérés et à marcher par la foi. C'est tout cela. Mais le Seigneur est grand. Et là, cette femme, son problème a été résolu. Et un petit miracle encore, extraordinaire. Élisée revient à Gilgal, donc 4:38. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme le fils des prophètes était assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il cueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ses hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» Et ils ne purent manger. Quand ils disent « La mort est dans le pot », ça veut dire que le pot est empoisonné, il y a du poison dans la nourriture. Élisée dit, « Prenez de la farine. » Il en jeta dans le pot et dit, « Serre à ces gens et qu'ils mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Amen. Ah, c'est extraordinaire. Un homme arriva de Baal-Shalish, il apporta du pain de prémisse à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura de reste. Il mit alors le pain devant eux et ils mangèrent et en eurent de reste selon la parole de l'Éternel. Comme quoi le miracle de Luc ou de Jean où Jésus multiplie le pain, ce n'était pas nouveau. Élisée avait déjà fait cela, bien-aimé. Parce qu'il avait foi en Dieu, il avait les richesses de Dieu. C'est normal que quelqu'un comme ça, quand il a vu Naaman lui proposer l'argent, il a dit non, j'en ai pas besoin. Moi j'ai déjà. J'ai déjà. J'en ai pas besoin. Changeons de conception. Avec le Seigneur, on a déjà. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas chercher l'argent, ce n'est pas chercher les bénédictions ni les richesses. Ce qu'il faut faire, c'est chercher le royaume des cieux. Changeons d'attitude. Aujourd'hui, considérons que ce qui est à nous n'est plus à nous. C'est au Seigneur et nous ne sommes que des gestionnaires. Nous devons nous mettre à l'écoute du Saint-Esprit pour nous demander, pour qu'il nous dise comment gérer ce qu'il nous a donné. Et ainsi, nous verrons de grandes choses. Nous verrons de grandes choses. N'avons-nous pas jeûné, prié, nous, les chrétiens de France, surtout quand on était dans la région parisienne, pour le réveil, mais ça ne vient toujours pas. Pourquoi? Mais ça ne peut pas venir avec les non-convertis. Nous devons nous convertir, être libérés vraiment de tout cela, des choses de la terre, et nous verrons, Dieu nous bénira au-dessus même, au-delà de nos attentes. Au-delà de nos attentes, parce qu'il est Dieu de l'abondance. Il dit que, Élisée dit, il y aura encore du reste. Donc les gens mangeront, non seulement ils mangeront, mais il va y avoir encore du reste. Et Jésus a multiplié le pain, il y a eu encore du reste. Dieu nous surprendra, bien-aimés. Dieu a surpris dans les actes des apôtres. Les gens vendaient leur maison, ils donnaient l'argent, mais il nous a dit qu'il y avait plus d'indigents. Tout le monde avait de quoi à satisfaire à ses besoins. Parce que les gens avaient compris que leur richesse n'était rien par rapport au compte bancaire, au compte de richesse céleste. Et ils vivaient dans la foi en Dieu et non pas dans une logique d'économie, d'avare, de radin. Non, c'était Dieu d'abord. Dieu d'abord. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Matthieu 6, 19. Le Seigneur dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ne vous amassez pas. L'argent ne doit pas être là à dormir quelque part. L'argent doit servir pour la gloire de Dieu. Et Dieu va multiplier encore. Même le monde nous enseigne, si l'argent est fixe quelque part, il ne bouge pas. Mais quand tu mets ça dans un compte avec des intérêts, ça augmente. Même si ça ne se multiplie pas, mais ça augmente. Parce que ça fonctionne. Et là, c'est écrit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent des robes. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobe, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voilà. 25, 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Que veut dire cette dernière phrase? Le corps et la vie sont beaucoup plus difficiles à obtenir, à fabriquer que la nourriture et que le vêtement. C'est des choses compliquées, la vie. Quelqu'un peut être costaud 2 mètres, on lui donne 2 balles, il meurt sur place. On lui met 2 balles dans le cœur, c'est fini. La vie, c'est beaucoup plus complexe que la nourriture. Et le corps, c'est beaucoup plus complexe que le vêtement, c'est rien. Alors si Dieu nous donne la vie et le corps, à combien plus forte raison, c'est qu'il est plus simple, la nourriture et le reste. Il dit 26, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans le grenier, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Dieu s'occupe de nous. Bien-aimés, il y a des moments, vous savez, quand vous êtes dans une maison, vous n'avez pas toujours les mêmes goûts. Hein? Et parfois, il peut y avoir un morceau auquel vous vous tenez, il y a un visiteur, il y a ma femme qui propose, ah ben je peux donner ça au visiteur. Dans mon cœur, je dis, mais attends, le morceau que moi auquel je tenais, et puis je me rappelle que si ça part, ça reviendra encore beaucoup. Bon, je dis, bon, j'accepte, mais bon, puisque je sais qu'au fond de 3 mètres, là, il y a un diamant. Voilà. Et puis un autre visiteur encore, mais il y a ce morceau-là. Je dis, bon, ça peut partir. Je sais que, mes bien-aimés, le Seigneur ramène toujours. Et beaucoup plus. Dieu est extraordinaire, il est très grand. Nous devons croire en lui et la relation avec le matériel sera aussi une démonstration de notre marche avec le Seigneur. Que Dieu nous aide à entrer dans la gloire. S'il vous plaît, si nous entrons dedans, ça sera la gloire de Dieu qui va se manifester. Comme Zachée a vécu, comme Élisée a vécu ça, nous allons vivre la gloire de Dieu, mais il faut entrer pleinement dans le Seigneur. Il faut oublier le matériel parce que Dieu veut nous donner plus que ça de loin, mais il veut que nous ayons des cœurs libérés et nous allons vivre sa gloire. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous refusons d'être déstabilisés par le matériel. Nous refusons d'être dérangés par des choses petites qui ne sont incomparables à ce que tu nous as déjà donné. Tu nous as donné la vie. Tu nous as donné ton fils. Et qu'est-ce que l'argent? Qu'est-ce que ces choses-là devant ton fils que tu nous as donné jusqu'à être sacrifié à la croix pour nous? Nous refusons alors d'être épatés par l'argent, épatés par les richesses de la terre, parce que nous en avons des supérieurs au ciel et disponibles pour nous. Et ce qui empêche que nous recevons ces choses, c'est qu'on s'accroche aux choses de la terre. Peut-être on croit que c'est des petits accrochages, mais c'est des vrais blocages par rapport à la venue de la gloire. Nous voulons nous accrocher à rien du tout. Même à ce qui peut paraître logique à l'intelligence humaine. Nous ne voulons pas nous accrocher à cela. Ce à quoi nous voulons nous accrocher, c'est au royaume de Dieu. Cherchez toujours à faire ta volonté. Toujours, toujours. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à entrer dans la vraie relation avec toi. Comme tu viens de le dire, on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas en même temps servir le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, qui donne tout, qui est le Dieu de l'abondance, et commencer à s'inquiéter comme si nous dépendions du Dieu de la terre.